Information, émotion, opinion. Votre radio. Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
En abordant la manière que d'aucuns pourraient qualifier de cavalière avec laquelle l'UPAC a choisi d'informer cette Chambre, je trouve tout à fait déplorable que l'UPAC n'ait pas pris la peine de communiquer avec l'Assemblée nationale, la plus haute et la plus noble des institutions, pour nous faire part de leurs intentions. En tout respect pour le travail des policiers et pour la bonne administration de la justice, votre président a encore des doutes sur la manière dont les choses ont été faites.
Les chefs Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Oh, qu'on a du matériel aujourd'hui, mes amis. Il va falloir être concis, faire preuve d'esprit de synthèse.
On va faire de la rétention.
Avec Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, mon
bonjour,
cher Alec.
Bonjour, bonjour.
Et Antoine Robitaille, que vous entendez ricaner au bout du fil.
Bonjour.
Antoine, tu nous résumes ça sans aller trop, s'il te plaît, dans les détails.
Oui, parce que tu sais, c'est un peu constitutionnel. Ça m'érotise.
Donc, je sais, justement, méfie-toi. Méfie-toi de tes feelings. OK?
Quoi?
De tes
sentiments.
C'est plus de tes pulsions.
Ah,
de
oui,
tes pulsions okay.
De ma pente. Il faut que je me méfie de ma pente. En tout cas, je te dis, c'est une décision impressionnante de Jacques Chagnon et qui est dans la droite ligne avec sa réaction que certains ont trouvé intempestive de l'autre jour. Là, il a comme mis de la chair autour de l'os.
Non, mais nous la table. Là, on parle de Guy Ouellet, on parle de l'UPAC.
Oui.
Hein? On parle de toutes ces questions qu'a soulevé Bérubé
Chagnon
du PQ.
Chagnon critique beaucoup l'UPAC.
Ouais, hein? Ouais.
Et avec des mots forts, des mots, il va droit au but. C'est vraiment une décision, moi je dirais, hardie. Et donc, il y avait 5 questions qui avaient été posées, comme tu le rappelles, par Pascal Bérubé. Hein? Faut-il avertir le président en cas d'arrestation d'un élu? Est-ce que le délai pour une accusation, est-ce qu'il y a un délai particulier pour une accusation pour un élu? Est-ce que les outils, les dossiers, les documents, c'est ailleurs que dans le Parlement, c'est des extensions du bureau du député. Donc là, dans le cas de la perquisition, c'est pertinent. Après ça, si on induit un député en erreur, volontairement, on utilise un piège ou un appât, est-ce que c'est une atteinte au privilège? Puis après ça, il y avait dit surveillance électronique. Est-ce que c'est une sorte d'outrage au Parlement? C'est une atteinte au privilège aussi d'un élu? Alors, sur ces 5, moi, je dirais qu'en général, OK, en général, c'est une décision qui est très critique à l'égard de l'UPAC. Il parle d'aucune sensibilité pour l'institution, on l'a entendu. Il fait une série de considérants à la fin, là, des comptes tenus qui résument bien, au fond, l'esprit de la décision. Mais je vais te dire qu'il reste quand même quelques zones grises. Mais écoutons d'abord Jacques Chagnon.
Okay.
Compte tenu de la manière dont le député de Chaumédé a été arrêté, compte tenu que, contrairement à une saisie de l'Assemblée, le président n'a pas eu à sa disposition le mandat de perquisition, compte tenu que le député de Chaumédé était alors le président de la Commission des institutions, compte tenu que la Commission des institutions détient des compétences parlementaires face à l'UPAC, compte tenu que le député de Chaumédé a été arrêté à l'aube de l'étude détaillée du projet de loi 107, loi visant à accroître la compétence et l'indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes, ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d'accorder certains avantages à des témoins collaborateurs, il importe de s'assurer qu'aucune information saisie n'a un lien avec l'exercice des fonctions parlementaires du député de Chaumédé.
OK. Fait qu'est-ce qu'il vient de dire en bon français, là?
Donc, il y a eu un manque de respect, que ça, c'est une possible intervention dans les travaux de l'Assemblée nationale, et ça, c'est une violation du privilège, là, parce qu'il faut protéger le député contre toutes sortes de pressions, puis il faut qu'il puisse parler, penser librement, rencontrer aussi des citoyens qui veulent se plaindre à lui. Il a même invoqué, là, dans sa décision, Jacques Chagnon, il a fait une comparaison avec les sources des journalistes. On sait qu'il y a une loi qui a été adoptée récemment notamment pour protéger les sources des journalistes, ben, le député aussi, on ne veut pas que le citoyen ait peur d'aller le voir
oui.
Et se plaindre à lui. Alors, la conclusion, ben, d'abord, pour y aller le plus simplement, là, il y a une décision claire, c'est qu'il ne faut pas, selon Jacques Chagnon, puis envoyer une lettre à l'UPAC là-dessus, que les données qui sont contenues dans les appareils saisis du député de Chomedey, là, qu'ils soient consultés. Il ne faut pas que, jusqu'à temps qu'il y ait un protocole qui soit mis en place, qui puisse permettre de veiller au respect des privilèges parlementaires. Alors, il va falloir distinguer entre les documents qui sont liés au travail parlementaire et les documents qui ne sont pas liés au travail parlementaire. Les documents qui sont liés au travail parlementaire seraient protégés.
Oui, mais là, c'est pas simple, Antoine, non? Ouais, mettons que Ouellet a... Mettons, on jase, là, parce qu'on le sait pas. Mais mettons qu'il a reçu, effectivement, des documents liés aux enquêtes de l'UPAC. OK, mettons. Bon. Est-ce que ça fait partie du devoir d'un élu que de diffuser d'une façon ou d'une autre ou de contribuer à rendre public des documents comme ceux-là si le député juge que c'est dans son mandat de député, de parlementaire, de les rendre publics, ces documents-là? S'il juge que c'est d'intérêt public qu'ils soient rendus publics, à ce moment-là, ça a beau être des documents de la police, ça a beau être des documents d'enquête, il peut penser que ça fait partie de sa job de parlementaire que de les couler. Je dis pas qu'il l'a fait. Je soumets cette hypothèse. Auquel cas, si on juge que ça fait partie de sa job de député, à ce moment-là, l'UPAC peut pas utiliser ces documents-là dans sa preuve contre Ouellet. Hein, non, c'est ça? J'ai bien résumé?
Oui, exactement. Ça va conduire à toutes sortes de discussions autour de chaque document. Ça peut prendre du temps, là. On sait que la requête Lavallée, par exemple, là, ça protège le secret professionnel entre un client et son avocat.
Oui.
Et on sait que dans l'affaire Machuré, ben Marc Bibeault a invoqué une requête Lavallée pour justement qu'il y ait certains éléments qui ont été saisis lors des perquisitions qui ne soient pas utilisés en invoquant justement le privilège avocat-client. Et ça, ouais. Ça a duré des mois, là. Donc, peut-être que là aussi, ça va être long avant qu'on fasse la distinction entre tous les documents. Là. Et,
donc, en conclusion?
Atmosphère en chambre, en tout cas. Ben, en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire?
Non, mais atmosphère en chambre, je trouve que c'était bien parti, là. Ça, ouais. C'était quoi l'atmosphère en chambre?
En conclusion, je peux te donner une conclusion sur chacun des points, mais tu sais, en général, il est fâché. Il trouve que l'UPAC ne connaît pas l'institution parlementaire, a ignoré l'institution parlementaire. Mais évidemment, sur la question si oui ou non il y a eu outrage, il dit « des doutes subsistent ». Donc, tu sais, il y a encore des zones grises, comme je disais tout à l'heure. Okay. Pour ce qui est de l'atmosphère en chambre, je vais te dire les applaudissements. Moi, j'étais en chambre, j'étais dans les tribunes des journalistes. J'ai regardé, là, et je te dis, les applaudissements étaient mitigés. Il y avait tout un groupe autour de Pierre Moreau. On se souvient que Pierre Moreau, lui, s'est abstenu lors d'une motion pour féliciter le président Chagnon la semaine passée, puis ça a créé tout un émoi.
Oui.
Et justement, M. Moreau, pendant la décision de M. Chagnon, il avait l'air assez embêté. Autour de lui, ça jasait beaucoup avec Robert Poëty, avec M. Hertel aussi. Et justement, ça, c'est un groupe qui n'a vraiment pas applaudi, là. Mais il y en a d'autres libéraux qui ont applaudi. Je pense à Raymond Bernier, à André Drolet. Évidemment, du côté du Parti québécois, ça applaudit pas mal. La CAQ, mitigée aussi. Tu vois, on peut écouter la réaction, une espèce de florilège de réaction de l'opposition maintenant.
Mm-hmm. Vous confirmez que les corps policiers doivent informer de manière systématique la présidence lorsqu'il est question de l'arrestation d'un député, surtout si cette arrestation l'empêche de participer aux travaux parlementaires. Non. Votre décision trace désormais la voie pour empêcher qu'un corps de police agissent de manière cavalière, ce sont vos mots.
Ne pas avoir procédé à l'arrestation et à la saisie à l'Assemblée nationale. Est-ce pour éviter la procédure plus lourde qui vise à obtenir la permission du président de l'Assemblée nationale? Est-ce pour éviter de soumettre un mandat de perquisition au président pour analyser s'il était respectueux des règles applicables en la matière? Et vous dites, force est de constater que des doutes subsistent. J'ose croire, M. le Président, que suite à la lettre que vous envoyez à l'UPAC, la missive que vous leur avez envoyée. Ils sauront répondre rapidement.
Vous avez même évoqué qu'il y a matière à se questionner sur la possibilité d'un outrage au Parlement. Est-ce que, en définitive, à la fin de votre réflexion, vous considérez qu'il y a bel et bien matière à outrage?
Alors, c'était Kadir, Amir Kadir de Québec solidaire, juste avant François Bonnardel de CAQ et juste avant Pascal Bérubé du Parti québécois.
Merci. Il manque une réaction, c'est Jean-Marc Fournier du gouvernement qui a eu une non-réaction. Ah. Il a dit... Il y a l'article 35 dans notre règlement qui est l'article, je vais le dire en latin parce que j'aime ça, sub judice, c'est-à-dire ne pas commenter une affaire devant les tribunaux, donc nous ne commenterons pas.
Okay.
Et là, c'était comme un message, ça a été en tout cas interprété par plusieurs, comme un message carrément à la présidence qu'il ne se mêlait pas de ses affaires, qu'il était allé trop loin.
Ah oui?
Il y en a d'autres qui ont dit non, Fournier voulait juste dire, envoyer le message aux oppositions de ne pas trop commenter parce que pour être prudent. Mais en tout cas, moi je te dis personnellement, là, j'y ai vu un message à la présidence que, selon lequel il considérait qu'il était allé un peu trop loin.
OK. Et je note en terminant ce constitutionnaliste qui a dit que c'est pas Jacques Chagnon qui ultimement va décider de l'existence ou de la portée du privilège parlementaire, mais les juges.
C'est ça.
Hein? C'est ça.
On
verra
si ça va devant.
Ouais. Ça va devant
les tribunaux. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si l'UPAC va s'entendre sur un protocole avec.
Ils vont-tu déposer des accusations contre Ouellet? Ça va-tu être décidé d'ici l'élection? En tout cas, on est dans le questionnement. Je sais pas. Là.
Mais c'est le législatif qui s'est rebiffé, ça, c'est clair. C'est comme ça qu'on peut résumer. On verra quels seront les effets de ça.
Alec, juste avant de la pause, peux-tu nous ramasser un petit peu ce qui s'est passé à Séoul hier, la décision finale, finalement, de maintenir l'Agence mondiale antidopage à Montréal jusqu'en 2031?
Oui, exactement. L'entente actuelle qui garde le siège social à Montréal terminée en 2021. Et là, on sentait qu'il y avait une volonté de certains membres de l'Agence mondiale antidopage de rapatrier les activités à Lausanne, pas loin du siège social du Comité international olympique. Et donc, Denis Coderre, qui avait amené à l'époque, souviens-toi, lorsqu'il était ministre des Sports, cette agence-là à Montréal, donc l'été avait tiré la sonnette d'alarme en disant on pourrait perdre ce siège social-là. Donc, avait mobilisé les forces Québec, Ottawa, Montréal International. Et donc, on avait gagné le premier vote à Paris à la fin septembre, c'est-à-dire qu'on n'allait pas mettre l'AMA en appel d'offres pour trouver une nouvelle ville. On allait demander à Montréal de faire une offre seule et on allait décider si oui ou non c'était acceptable. Ça a été approuvé donc en Corée, à Séoul. Et donc, on a un peu plus de détails sur qu'est-ce que Montréal, Québec et Ottawa ont offert à l'Agence mondiale antidopage et à ses membres du conseil d'administration pour garder le siège à Montréal. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qui est sorti jusqu'à présent. Il y a le volet financier, là, évidemment, on bonifie l'aide qu'on verse chaque année en subvention à l'Agence mondiale antidopage. C'était autour de 1,9 million de dollars par année. Ça va être 3 millions de dollars à partir de 2021 jusqu'en 2031. Donc, sur 10 ans, on ajoute 11 millions de dollars de plus. Là. Bon,
c'est payé un tiers Québec, deux tiers Ottawa.
Oui, exactement. On maintient plusieurs des avantages qui étaient déjà conclus. Par exemple, il n'y a pas de taxe municipale, pas de taxe foncière pour l'Agence mondiale antidopage. Donc, on ajoute une somme d'un million de dollars qui va être payée par Québec pour faire de la recherche scientifique sur les biomarqueurs et l'intelligence artificielle. Donc, on met une somme pour aller peut-être développer des nouveaux outils, par exemple. On ajoute une équipe spécialisée du ministère fédéral de l'immigration qui va s'occuper spécifiquement des visas pour les chercheurs qui viennent travailler ici. Parce qu'on le sait, l'AMA a quoi, 85 membres actuellement, 85 employés, devrais-je dire. On va monter à 105. Donc, on a des gens qui vont avoir besoin de visa. Certains viennent ici pour quelques mois, s'en retournent. Bref, on veut être plus facilement accompagné du côté de l'Agence mondiale antidopage pour pas qu'il y ait de retard dans l'émission des visas. Une équipe spécialisée au ministère va s'occuper de ça. On promet aussi un accompagnement du gouvernement canadien pour tous les lanceurs d'alerte à travers le monde qui contactent l'Agence mondiale antidopage en disant qu'ils ont obtenu des informations, soit sur un cas spécifique de dopage, soit sur un mécanisme à grande échelle qu'on a beaucoup parlé des Russes, entre autres.
Évidemment, les Russes, c'est un lanceur d'alerte.
Et comment on protège ces personnes-là eux veulent dénoncer? Ben, le gouvernement canadien dit ben, on va créer une équipe, on va accompagner à chaque fois l'Agence mondiale antidopage, qui n'a pas toujours les ressources pour faire ça, là, c'est des scientifiques, pour savoir comment on les protège.
Ça peut vouloir dire accueillir, je comprends bien, au Canada.
Écoute,
pour les
pour
protéger.
Pour l'instant, on dit on crée un comité spécial.
Comme un réfugié un peu. Là.
Ça va être au cas par cas, mais peut-être qu'effectivement, si la personne dit « je peux vous parler, j'ai des informations pour vous, mais je ne peux pas rester dans mon pays, c'est trop dangereux », il faudrait que le Canada s'y penche. Donc, on a un comité spécial spécial qui va aider l'AMA de ce côté-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Agence mondiale antidopage va soumettre un projet de loi privé à l'Assemblée nationale pour protéger ses employés contre des poursuites aux civils découlant de leur travail sur les cas d'antidopage.
Donc, par exemple, des athlètes qui se préparent pendant 4 ans pour aller aux Olympiques, finalement, ils se font dire qu'ils ne peuvent pas parce que leur pays est accusé de dopage.
Ouais, ou même eux-mêmes, par exemple, sont reconnus coupables de dopage et là, veulent poursuivre soit l'Agence mondiale antidopage, soit certains de ses employés pour diffamation, par exemple, en disant « ben là, vous avez sali ma réputation, je ne suis pas d'accord avec vos conclusions », ça ne sera pas possible de les poursuivre. Parce que le Québec va donc faire un projet de loi privé. Je me suis informé, on a dit « écoutez, l'entente est adoptée comme ça, donc Québec est d'accord. » Alors, on va soumettre un projet de loi privé à l'Assemblée nationale qui va donc soustraire les employés de l'AMA et de l'Agence mondiale antidopage à des poursuites civiles dans des cas comme ceux-là. C'est pas une immunité diplomatique là. Si un employé de l'Agence mondiale antidopage a des problèmes dans son appartement puis que le propriétaire veut les poursuivre.
Non, c'est une immunité de poursuite au civil.
Unique, c'est ça. Et dans les cas spécifiques, c'est lié au travail. Donc c'est lié évidemment aux conclusions de l'Agence mondiale antidopage. Donc on ajoute une protection juridique pour eux. Clairement, c'était visiblement une demande parce qu'il y a de plus en plus de cas qui se sont multipliés. C'est le Montréal International qui va payer les frais d'avocat pour la rédaction du projet de loi de l'AMA qui va être déposé, j'imagine, dans les prochains mois. Donc, ça fait pas mal le tour. Un peu d'argent, de la protection, des visas plus faciles à acquérir.
Beau travail d'équipe. Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre, Québec, Marc Garneau qui était là-bas. Les deux étaient là-bas. Et la ville de Montréal, Bolduc, Montréal International, Hubert Bolduc a bien travaillé. Valérie Plante s'en est réjouie. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Belle opération. Absolument. Tout le monde a travaillé ensemble. C'est super. On va s'arrêter parce qu'il faut se garder du temps. Alec, tu as beaucoup de choses importantes à nous parler. Puis toi aussi, Antoine. Fait qu'on s'arrête puis on revient avec le cannabis puis l'ALENA, notamment. L'ALENA. OK. Cannabis, mon cher Antoine, le projet de loi pour encadrer la légalisation du cannabis a été déposé par le ministre Charlebois. Je rappelle à nos vastes auditeurs qu'elle sera en entrevue sur cette antenne vers 14h. Hein, Madame Charlebois?
14h15. Tout un boulot.
14h15. Alors, résume-nous donc ce projet de loi.
Tout un boulot avec une échéance qui force à aller à fond la caisse. L'échéance est le 1er juillet.
Oui.
Et tu connais, comme ancien leader parlementaire, la question clé quand on dépose un projet de loi. Est-ce qu'il va y avoir des consultations générales, des consultations particulières? L'opposition voulait des consultations générales, donc plus larges. Et le gouvernement a dit non, on n'a pas le temps, là. C'est consultation particulière.
Ça se défend.
Et ils ont commencé à se pogner un peu à ce sujet.
Il y a déjà eu des consultations en plus. Une partie de l'automne, à la fin du mois d'août. Quand même.
L'opposition était fâchée.
Mais là, c'est parce que là, Trudeau, il a décidé que ça allait de l'avant pour le 1er juillet. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut que l'encadrement soit là avant que la loi fédérale vienne en vigueur.
Oui, sinon, c'est les autres, les autres qui gouverneraient finalement cet aspect-là, qui réglementeraient cet aspect-là.
Ouais.
Et ça, Madame Charlebois, tantôt, l'a bien dit, la ministre Lucie Charlebois l'a bien dit en conférence de presse. Alors, quelques questions en rafale ou en consommé. On peut, comme la cigarette, sur la rue, mais il y a plusieurs interdictions, les mêmes que les cigarettes. On va pouvoir griller un joint à 9 mètres d'un établissement, comme les fumeurs de tabac. Est-ce que les produits dérivés...
9 mètres ou moins si le trottoir arrive avant le 9 mètres, Antoine?
Ben important. Merci. Je connais pas ça. Toi, fumeur, tu sais.
Ben comme ancien fumeur, oui.
Oh, je savais pas.
Ben oui. Ben oui.
De joint ou de... Non.
Dans ma tendre jeunesse.
Est-ce que tu avais inhalé?
Dans ma tendre jeunesse.
Avais-tu inhalé?
C'est clair que oui, voyons. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas inhalé sont des Christine menteurs, franchement. Alors, c'est ça. Donc, si tu sors d'un resto, mettons, puis le trottoir arrive, mettons, après 5 mètres, tu ne vas pas aller fumer ton petit joint, ta cigarette au milieu de la rue. Tu as le droit de fumer à partir du trottoir. Dans les faits, là, la règle, c'est ça. Ouais. Si tu es à l'intérieur du 9 mètres, tu as le droit de fumer rendu sur le trottoir.
Donc, fumer, mais tu sais, les produits dérivés, non. Les produits dérivés sont, vu que la loi fédérale ne l'a pas encore légalisé, ça, le 1er juillet, de toute façon, ça ne sera pas légalisé.
On ne pourra pas acheter
La question ne se pose pas dans le projet de loi du Québec. L'âge, 18 ans, même que l'alcool. On sait que la CAQ souhaitait 21 ans, mais le premier ministre avait été assez clair là-dessus. Il n'y a pas de grosses surprises. Il avait dit que c'était 18 ans parce que à l'eau, la terre, les jeunes en fument déjà. C'est peut-être mieux qu'ils fument du pot légal qu'aller sur le marché noir. C'est le but de cette opération. Où est-ce qu'on en achète? À la Société québécoise du cannabis, mon cher.
C'est comme ça que ça va s'appeler, là?
Oui, la SQC. Alors, il faut s'y habituer.
Écoute, ça me fait... Écoute, si on m'avait dit, moi, quand j'en fumais là, dans mes belles années, là, qu'un jour, je pourrais acheter legit, légalement, du pot dans une société québécoise du cannabis, écoute, je serais encore plié en dessous de la table, à rire.
Ça poussait bien à l'île du Pas?
Ça poussait très bien, mais c'est pas moi qui le faisais pousser.
OK, quand même.
Quand même. En tout cas, j'étais agriculteur, mais pas de ça.
OK. On pourra pas finalement. Je ne sais pas si t'as. Bon, tes amis qui étaient agriculteurs, s'ils le faisaient à la maison, là, ça serait même pas permis aujourd'hui.
Mais là, Trudeau le permettait dans son projet de loi.
Ça, c'est
puis
drôle,
là, Québec l'interdit.
C'est toute une contradiction quand même entre la loi fédérale et la loi québécoise. Mais je pense que c'est la prérogative du Québec.
L'Ontario a dit la même chose, hein,
de limiter ça.
J'ai hâte de voir aussi. Ça, moi, là. Mettons là, que pas moi, là, c'est bien, mais quelqu'un que je connais qui sème un plant puis qui décide de le récolter. J'ai hâte de voir, mettons que la police arrive et elle dit, en vertu de la loi québécoise, tu n'as pas le droit de cultiver ton plant de pot. Et le monsieur ou la madame de répondre, ah oui, mais Justin, lui, dans son projet de loi, me le permet. Laquelle des deux lois aura préséance?
Ça va être une question constitutionnelle.
Ça va aller devant les tribunaux.
Ah, Antoine,
parce que tu pourrais donner une sanction monétaire au Québec si tu conduis, si tu as un plant. C'est pas en vertu du code criminel, parce que le projet de loi du gouvernement fédéral, c'est 4 plants et moins. Tu pourrais dire, bon, mais tu n'as pas le droit d'en faire pousser chez vous, c'est 1 000 $ d'amende par plant, mettons. Là. Puis, tu pourrais trouver une espèce d'entre-deux, là, comme avec l'alcool au volant, mettons. Mais je pense que ça va être contesté.
Criminel, l'alcool au volant, c'est criminel.
Ouais, mais
tu as des sanctions ailleurs au pays à partir de 0,05.
Ouais, okay.
C'est ça que je veux dire. Tu pourrais donc trouver une façon d'avoir des amendes.
Tu paierais une amende au Québec, mais tu n'aurais pas de...
De casier judiciaire. C'est une possibilité. Je ne sais pas que ça va être ça, là, mais c'est une possibilité.
Intéressant.
Les succursales?
Oui, les succursales.
Une quinzaine de succursales vont ouvrir leurs portes en juillet 2018, imagine-toi donc. D'ici 2-3 ans, il va y avoir 150 succursales qui vont ouvrir au Québec.
Attends, 15 d'ici quoi?
D'ici la légalisation formelle, juillet 2018.
Okay.
Puis dans les 2 ou 3 prochaines années, ça va monter jusqu'à 150. Ooh. Et les Québécois vont pouvoir se tourner vers la vente en ligne, mais il va falloir qu'ils soient assez efficaces. Me texte quelqu'un qui connaît très bien ça, parce que les producteurs autorisés vont vendre en ligne aux Canadiens, mais peut-être pas aux Québécois. Ça sera pas évident. On va se retrouver dans un problème caractéristique de l'ère numérique qui est la nôtre.
On pourra pas... Attends un peu, là. Tu viens de dire que les Québécois ne pourront pas commander du pot par Internet?
Oui, ils vont pouvoir, mais auprès de la Société d'État seulement.
Ah, mais seulement auprès de la SQC.
Ouais, ouais.
Ah.
Ben, c'est comme l'alcool. L'alcool, tu n'as pas le droit de te faire venir une caisse de la vallée du Niagara, là. Faut que tu passes par la SAQ pour pouvoir te commander de l'alcool au Canada. Là. Tu peux pas faire venir du vin par la poste, d'ailleurs. Ils ne sont pas autorisés à te l'envoyer. Ça va être semblable du côté du pot. En fait, à part l'âge légal, là, qui est 18 ans ici, 19 ans en Ontario, c'est un copier-coller de ce que l'Ontario va faire.
OK. L'Ontario,
est-ce que ça va être payant?
L'âge légal à 19 ans, l'Ontario?
Oui, parce que leur alcool, eux, c'est 19 ans. Ah, okay. Mais sinon, tout est pareil. Filiale de société d'État, 150 points de vente, vente par Internet seulement par leur société. Tout est pareil. C'est vraiment très harmonisé avec l'Ontario.
On va-tu faire de l'argent avec ça?
Je sais pas.
Est-ce que c'est payant? Ça va être payant, la SCQ? Dans les premières années, la SCQ pourrait réaliser des ventes d'environ 500 millions. Bien que ce chiffre demeure très approximatif, c'est Patrick Bellerose qui a écrit ça dans son compte-rendu. Québec pourrait ainsi aller chercher 40 millions par année en taxes d'assises et 60 millions en TVQ. Les profits seront réinvestis dans un fonds de prévention. Oui, parce que là, on a vraiment peur. Hein? Prévention et prévention contre la publicité trop attrayante aussi. Il va y avoir des publicités informatives qui vont être permises, mais des publicités style de vie, là... Comme dans le temps, là, les publicités de cigarettes là, qui ont été finalement interdites. Justement, ça aussi, ça va être interdit pour le cannabis.
Et en conclusion, parce qu'il faut vraiment
conduite
parler de la
conduite automobile, oui. On peut parler juste de la conduite automobile. Le projet de loi prévoit qu'un automobiliste dont la salive révélerait la présence de cannabis verra son permis de conduire révoqué pour une période de 90 jours. Et donc, c'est tolérance zéro.
Oui, mais là...
T'en as dans ta salive.
C'est très compliqué, ça, parce que comme quelqu'un l'a dit, comment est-ce qu'on va mesurer ça, là?
Puis, c'est que si tu es un consommateur régulier, tu peux avoir des traces dans ta salive, même si tu n'es plus sous effet...
Sans être intoxiqué, oui,
c'est ça. C'est ça qui est difficile. On verra quand on va savoir sembler ça.
Parlons de l'ALENA. Il nous reste 2 minutes, n'est-ce pas, Alec?
Oui, parce que la nouvelle ronde de négociations commence aujourd'hui au Mexique, entre, bon, évidemment, le Mexique, le Canada et les États-Unis. On se prépare à tous les scénarios du côté du gouvernement canadien parce qu'on n'anticipe pas que ça va être facile, cette nouvelle ronde de négociations-là. Il y a le secrétaire américain au commerce, Wilbert Ross, qui a dit mardi que les Mexicains et les Canadiens avaient trop à perdre dans ces négociations-là pour ne pas accepter de faire des concessions et qu'ils allaient finir, et là, je le cite, « par comprendre le bon sens et signer une entente raisonnable ». Or, moi, ce qu'on me dit à Ottawa, c'est qu'on est mieux ne pas avoir d'entente que d'avoir l'entente qui est actuellement sur la table parce que les demandes américaines sont irrecevables. Notamment, 4 demandes formulées par les États-Unis lors de la ronde précédente. On va officiellement émettre une fin de non-recevoir à la table aujourd'hui à ces 4 demandes-là, autant du côté canadien que du côté mexicain. Et on a hâte de voir ce que les États-Unis vont faire. C'est pour ça que je dis qu'on se prépare à tous les scénarios. On pourrait décider de se retirer de l'ALENA dans les prochaines semaines. Les 4 pilules empoisonnées, là, c'est comme ça qu'on les appelle du côté canadien, c'est la clause crépusculaire de 5 ans, c'est-à-dire que l'ALENA qu'on négocie là tomberait automatiquement 5 ans plus tard, à moins que tous les pays s'entendent pour la renouveler. Ça, c'est une incertitude garantie pour les 5 prochaines années. On ne veut pas ça. L'obligation d'avoir 50 % de pièces fabriquées aux États-Unis dans la composition des automobiles, on dit que c'est irréalisable et ça mettrait à terre le secteur automobile canadien
même
et mexicain.
Mais l'industrie américaine en veut
même pas non plus. Ben non, parce que les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées. Ouais. L'élimination du chapitre 19 sur le mécanisme de résolution des différends, les Américains veulent complètement l'éliminer. Le Canada y tient. C'est notamment grâce à ça qu'on gagne nos batailles judiciaires sur le bois d'œuvre. Mm-hmm. Et la restriction très importante qu'on veut imposer aux entreprises canadiennes et mexicaines qui veulent soumissionner sur des appels d'offres publics aux États-Unis. Les Américains veulent encore resserrer les dispositions. On dit que c'est devenu beaucoup trop protectionniste. Ça n'a pas de sens de restreindre le marché américain comme ça. Donc, ces 4 demandes-là formulées par les Américains qui avaient déjà fait sursauter tout le monde sont encore sur la table. Puis le Canada puis le Mexique vont officiellement dire « on n'en veut pas ». Et s'il y a une de ces ententes-là, de ces éléments-là qui restent, ben nous, on est prêts à quitter la table de négociation éventuellement. Donc, ça va brasser pas mal, mais il n'y aura pas les ministres. Chrystia Freeland, Robert Lighthizer, puis leur homologue mexicain, là, ont décidé de ne pas aller au Mexique. Donc, il n'y aura pas de ministre sur place. On va laisser les négociateurs travailler. On va essayer de laisser le politique un peu plus loin pendant cette ronde-là. Ils se sont de toute façon rencontrés au sommet de la PEC au Vietnam. Donc, ils ont déjà discuté pas mal dans les derniers jours, puis ils n'ont pas besoin de se revoir. Peut-être que ça va faire baisser un peu la tension qu'il n'y ait pas les politiciens juste en arrière. Du moins, c'est ce qu'on espère, qu'on puisse avancer sur d'autres choses, malgré que ces clauses-là très litigieuses restent en suspens. Là. Donc, on en est là. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler le 21 novembre qu'on va sortir de cette ronde de négociations-là.
J'ai hâte de voir aussi. Merci beaucoup, Alec Castonguay. Je rappelle que tu es le chef du Bureau politique pour le magazine L'Actualité. Antoine Robitaille, chef du Bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Merci à vous deux. On se reparle demain.
Salut. Au revoir.